La question du jour, une mission sur les logiciels libres lancée par le gouvernement de Jean Castex, un directeur de la technologie de la Maison Blanche, spécialiste des logiciels libres nommé par Joe Biden. Une commission européenne qui s'intéresse aux logiciels libres dans un contexte où la pandémie a renforcé le monopole des GAFAM. Ces géants du numérique que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, plusieurs signaux montrent une ouverture vers ce type de stratégie numérique. Enjeux politiques, démocratiques, économiques, géopolitiques, pourquoi les logiciels libres peuvent-ils intéresser les États ? Bonjour Valérie Peugeot.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au laboratoire de sciences sociales d'Orange et commissaire à la CNIL en charge du secteur santé. Il faut tout d'abord définir ce qu'est un logiciel libre.
Oui, un logiciel libre qu'on appelle aussi parfois open source, c'est par opposition à un logiciel propriétaire, un logiciel dont les licences autorisent le droit de l'utiliser, de l'étudier, de le modifier et de le redistribuer librement. Ça veut dire concrètement que toute personne qui dispose des compétences adéquates peut réutiliser un logiciel libre qui a été développé par d'autres pour ses propres besoins sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et puis une autre caractéristique du logiciel libre, c'est que la plupart du temps, il est développé en collaboration par des communautés de développeurs de façon ouverte.
Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut être un spécialiste de l'informatique pour installer, utiliser un logiciel libre, Valérie Peugeot ?
Cela dépend. Et il y a des logiciels libres qui s'installent dans des infrastructures, donc là effectivement sur des serveurs par exemple, et là effectivement c'est réservé aux personnes très compétentes. Par contre, il y a des logiciels libres que vous pouvez installer sur votre ordinateur personnel très simplement et qui remplacent de façon tout à fait utile et agréable les logiciels propriétaires. Par exemple, l'association Framasoft, elle développe une suite logicielle qui remplace l'équivalent d'un Google Doc ou l'équivalent d'un Doodle avec Framadate, Framadate ou Framapad, par exemple.
Et alors, aujourd'hui, pourquoi... Je vous en prie, Valérie Peugeot, allez-y.
Non, dans les autres exemples, on peut remplacer la suite Microsoft par la suite LibreOffice ou la suite OpenOffice. Voilà, tout ça, ça s'installe très simplement sur un ordinateur personnel.
Et alors pourquoi plusieurs acteurs politiques s'intéressent-ils aujourd'hui à ces logiciels libres ?
D'abord, il faut savoir que le logiciel libre ne date pas d'hier, ça remonte au début des années 80. Et pendant longtemps, il s'est développé à bas bruit, contre l'idéologie dominante qui pensait que la seule manière de stimuler l'innovation, c'était de renforcer la propriété intellectuelle. Et puis, effectivement, en ce moment, on assiste à une forme de retournement, d'effervescence. Je dirais trois raisons. La première, c'est que c'est d'abord un accélérateur d'innovation, parce que ça s'appuie sur ces logiques coopératives que je décrivais tout à l'heure. Ça permet de mutualiser des moyens dans ce qu'on appelle les forges, ces plateformes ouvertes où les développeurs déposent leur code ouvert. D'autres développeurs viennent corriger, améliorer le code. Voilà, on est toujours plus intelligent et productif quand on est nombreux. Et donc, c'est aussi une logique de mutualisation. Plutôt que chacun développe dans son coin, chaque entreprise, chaque administration, eh bien, on peut développer de façon mutualisée et faire des économies importantes. Ce qui explique qu'il y ait des gros consortiums d'acteurs, par exemple les grands constructeurs automobiles, qui en ce moment développent des systèmes d'exploitation pour leurs véhicules en commun. Deuxième raison, c'est une source d'autonomie. Lorsqu'on dépend d'une solution logicielle propriétaire, on n'est jamais à l'abri d'un arrêt de la distribution, d'une solution qui n'évolue plus, qui ne répond plus aux besoins. Ce qui oblige à recommencer à nouveau avec un nouveau prestataire, avec le risque d'avoir investi des millions pour rien dans la première solution. Et puis, et c'est la troisième raison, c'est sûrement celle-là qui agite le plus les acteurs publics et qui explique un certain nombre de déclarations d'amour des acteurs publics pour le logiciel libre, c'est que, en fait, ils se sont rendus compte que, aujourd'hui, nos économies sont en quelque sorte prisonnières de quelques acteurs états-uniens, ou pour l'essentiel, demain chinois. On parlait de TikTok tout à l'heure, qui ont développé des suites logicielles et des offres pour ce qu'on appelle le cloud, l'informatique en nuage, qui sont de très grande qualité, mais qui soulèvent plein de problèmes. D'abord, des problèmes de dépendance, parce que ces acteurs sont devenus oligopolistiques ou monopolistiques, des problèmes de protection des données, parce qu'ils sont soumis au droit états-unien qui n'assure pas un niveau de protection aussi élevé qu'en Europe, loin s'en faut, et puis des problèmes économiques, parce que leur puissance est telle qu'elle assèche l'innovation sur le territoire européen. Les start-up qui veulent se lancer sur des segments d'activité similaires, ben, soit ils n'arrivent pas à rivaliser parce qu'ils n'ont pas les moyens pour investir à la même hauteur, soit ils se font racheter. Et le logiciel libre, par définition qui ne peut pas être racheté, ben, c'est une réponse à cette triple problématique.
Pendant très longtemps, Valérie Peugeot, on a rechigné à utiliser des logiciels libres parce qu'on s'est dit qu'ils étaient moins performants que les logiciels non libres, c'est-à-dire les logiciels payants. Est-ce toujours le cas ?
Non, bien au contraire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre d'entreprises. On peut citer la Société Générale, la SNCF, le Crédit Mutuel, mais aussi des grandes administrations comme la Gendarmerie Française, hein, c'est pas la moindre des administrations, qui ont adopté le logiciel libre, ou des collectivités locales qui ont adopté le logiciel libre, aussi bien pour des logiciels ce qu'on appelle métiers, hein, spécifiques aux besoins d'une ville, que pour les bureaux des services.
Des outils bureautiques.
Des outils bureautiques, parce que aujourd'hui, ces logiciels sont non seulement de qualité, mais aussi très sûr, parce que le fait qu'ils soient ouverts, que leur code soit ouvert, eh bien, ça permet de vérifier en permanence qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, et le cas échéant de les corriger rapidement. Justement, c'est la force de cette coopération, de cette collaboration, qui est la spécificité du logiciel libre. Donc c'est au contraire, aujourd'hui le logiciel libre a fait ses preuves à la fois en termes de qualité, d'efficacité et de sécurité.
Mais est-ce que ça n'est quand même pas pardonnez-moi, je vous ai coupé, pardon. Valérie Peugeot, est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet d'aubaine, parce que on se dit que si une banque utilise un logiciel libre, elle aurait la possibilité de rémunérer une licence ou de faire en sorte que ceux qui ont participé au développement de ce logiciel libre ou à son amélioration aient une partie des dividendes, non?
Non, mais il y a un modèle économique du logiciel libre, hein. Il ne faut pas croire que c'est du gratuit. Simplement, le modèle économique ne se place pas au même endroit que pour le logiciel propriétaire. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre la licence, l'accès au logiciel, dans le logiciel libre, les entreprises qui les développent vendent du service autour du logiciel. Par exemple, elles vont vendre de la formation, elles vont vendre de la personnalisation, de l'adaptation du logiciel aux besoins spécifiques d'un client. Je rappelle que Red Hat, qui est la plus grosse entreprise de l'open source aujourd'hui, a quand même un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars. Donc, vous voyez, on n'est pas que dans la petite.
Non, alors d'ailleurs, à propos de Red Hat, aujourd'hui, IBM ne se passe plus de Red Hat. Est-ce que ça veut dire que finalement, le bénéfice, ou en tout cas le chiffre d'affaires, il est logé ailleurs? Parce que aujourd'hui, on voit bien que Red Hat a une place centrale sur le marché des logiciels libres, qui ne sont donc plus si libres que cela, Valérie Peugeot.
Non, je ne dirais pas ça. Ils gardent leur liberté fondamentale. Quand vous dites que IBM ne se passe plus de Red Hat, c'est au point qu'IBM a racheté l'entreprise Red Hat. Mais IBM avait investi dans le logiciel libre bien avant le rachat de Red Hat. C'était un pari gagnant pour eux, parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un vivier d'innovation, c'est une source d'économie par mutualisation. Donc, ceci explique que des grandes entreprises comme IBM s'y soient intéressées, alors que d'autres poursuivaient sur la voie propriétaire. Mais je voudrais revenir sur un point, vous me parliez tout à l'heure.
Rapidement, s'il vous plaît.
Pour lesquels les États, il y a cet engouement pour le logiciel libre, c'est qu'à la fin, c'est une reconquête de souveraineté, c'est-à-dire une forme d'indépendance, à la fois par rapport à des fournisseurs de solutions non européens, et c'est aussi une marge de manœuvre pour une véritable, ce qu'on pourrait appeler une politique industrielle du 21e siècle, qui permet à l'Europe de garder un contrôle sur ses technologies, sur ses données, de préserver de l'emploi sur son territoire. Voilà, c'est une politique autonome qui transcende nativement les frontières, puisque le code est ouvert. Et puis, dernière chose, c'est aussi l'assurance qu'il n'y ait pas de backdoor, c'est-à-dire d'entrée secrète dans les logiciels qui permettent à des services secrets de s'y introduire, puisque le code est ouvert. Et c'est enfin une garantie démocratique, parce que qui dit logiciel dit transparence.
Merci beaucoup, Valérie Peugeot.